Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Grosse semaine en politique américaine. Bon, vous avez vu Joe Biden, le 46e président des États-Unis. Finalement, Donald Trump a quitté la présidence. Ça s'est fait dans le calme. Et beaucoup de choses à venir. Il y a l'impeachment, la destitution qui est encore en vigueur. On va voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué à son départ. C'est qu'on annonce là, que Donald Trump, avant de quitter, aurait fait des pardons présidentiels à 73 personnes. Donc, 73 personnes qui sont pardonnées par le président. Je ne sais pas la force de ces pardons-là. Peut-on pardonner quelqu'un qui avait commis un acte criminel ou c'est plus léger? Je ne sais pas que ça prévient de poursuites criminelles ou civiles. On voulait en savoir plus et on en parle avec Luc Laliberté, que vous connaissez tous, chroniqueur en politique américaine. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour, François-David.
Ces pardons-là, parce que là, Donald Trump part en signant, j'imagine, tu vas me le dire, plus de pardons que d'autres présidents ont fait là, en partant. Là.
Écoute, il en a fait beaucoup, mais on a déjà vu plus, par exemple.
Oh, okay.
Dans les derniers jours, si on parle, parce qu'on additionne deux choses, puis c'est souvent fait la dernière journée ou dans les dernières heures, on parle de commutation de peine, puis on parle aussi de pardon.
Okay.
Les deux additionnés, Donald Trump en a fait quelque chose comme 140 ou 147 là, dans les dernières 24 heures avant de partir.
Mm-hmm.
Obama était, lui, au-delà de 500. Là. Il avait un projet beaucoup plus vaste qui était, entre autres, de commuer la peine de détenus qui avaient été condamnés pour des offenses liées à la drogue, mais pas nécessairement à des drogues dures, et qui avaient obtenu des peine très, très sévère,
okay,
qui remontait à une autre vision du système de justice. Donc, Obama avait dit, écoutez, moi, je pense que c'est presque une expérience de réinsertion sociale et il avait vérifié les antécédents de ces gens-là auparavant. Puis donc, il en avait libéré plusieurs. Et pour en revenir au président, ce qui est particulier dans son cas, c'est la proximité des gens à qui il a accordé ce pardon-là.
Ah.
C'est moins le nombre que la façon de procéder. Comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, avec Donald Trump. Monsieur Trump, on en a déjà discuté tous les deux. Il a été très bon, son entourage ou lui, pour profiter de tous les contours de la Constitution américaine ou encore des pouvoirs de la présidence.
Mm-hmm.
Tout ce qui n'était pas écrit noir sur blanc ou qui pouvait être interprété, Monsieur Trump s'est organisé pour en profiter. Donc, c'est là où je répète souvent, c'est un excellent test pour les institutions américaines, même si ça fait peur et même si ça a contribué à ébranler le système. Au plan théorique, c'est drôlement intéressant.
Mm-hmm.
Le pardon, habituellement, là où le président intervient, d'abord, il faut que ça concerne un crime fédéral. Ça ne dispense personne de comparaître devant des tribunaux pour un crime qui relève de la justice d'un État. Donc, il faut que ce soit au niveau du gouvernement fédéral américain.
Okay.
C'est là où le pardon du président peut être utilisé. Mais on avait, depuis le début de l'histoire américaine, en quelque sorte, encadré cette procédure-là. Habituellement, quand un président accordait un pardon, on avait déjà consulté auparavant et étudié chacun des dossiers avant qu'il ne parvienne sur le bureau du président. Donc, M. Trump, lui, a outrepassé ça. Il a répété en quelques occasions, avant même que des gens soient condamnés, que lui envisageait de leur accorder un pardon. Donc, on n'avait même pas encore accordé la peine. Donc, on n'avait pas étudié non plus le dossier au ministère de la Justice ou les conseillers juridiques du président.
Okay.
Et M. Trump est allé de l'avant avec ça. Là où on a remis en question beaucoup le recours au pardon de la part du président, c'est qu'habituellement, et c'est un autre débat, mais ça va ensemble en même temps, on s'est demandé, hein, est-ce que Donald Trump peut s'accorder un pardon?
Oui, j'allais te poser la question.
Voilà, est-ce qu'il peut s'accorder un pardon à lui ou à ses enfants? La question, elle est sous-jacente quand on regarde la proximité. Quand on accorde des pardons présidentiels, les gens connaissent Roger Stone ou Michael Flynn. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé pour le président Trump ou qui étaient même des consultants, puis dans certains cas, des amis de longue date. Donc, quand on accorde des pardons à ces gens-là, il le fait avec Steve Bannon, par exemple, qui est à la Maison-Blanche au tout début de son administration, alors que Bannon n'a même pas eu sa sentence. Ce qu'on dit, c'est qu'en accordant ces pardons-là, le président se trouve en même temps à servir sa cause. Imagine que M. Bannon soit appelé à témoigner devant un tribunal et que pour assurer sa défense, il explique ce qu'il a fait dans le cadre de son travail avec le président parce que la cause était liée à son travail au sein de la campagne Trump ou auprès de Donald Trump. Donc, M. Trump se trouve en même temps à se protéger. Et là, on a dit on est vraiment à la limite au plan éthique, moral, mais en même temps, au plan constitutionnel, on est à la limite. Et c'est là où il restait juste un petit pas à franchir pour dire que c'était presque comme s'accorder un pardon. Mm-hmm. Et le débat est très intense au sein de la communauté, au sein des constitutionnalistes américains. L'écrasante majorité de ces gens-là disent le langage de la Constitution, le sens de chacun des mots qui est utilisé, pour la très grande majorité des gens, je me répète, un président ne peut pas s'accorder un pardon. Il ne peut pas être juge et parti. Et chaque fois que dans le texte original, on a utilisé l'expression « to grant », « accorder », c'était toujours dans le sens d'accorder à quelqu'un d'autre.
Okay. Pas s'accorder. Donc, la loi lui permet pas, la Constitution.
Ben, c'est ce qu'on a fait valoir. Ce qu'on a rapporté de la Maison-Blanche dans les dernières heures, c'est que le conseiller juridique de la Maison-Blanche, les avocats qui ont côtoyé ou conseillé le président lui ont dit « vous faites pas ça ». Il y a une autre tombée aussi que ça pouvait impliquer pour le président, c'est que dans d'autres procès, à partir du moment où on a eu une grâce présidentielle, on n'a pu plus invoquer, et je suis certain que tu te souviens de ça, puis nos auditeurs se rappellent peut-être de nombreux films ou de causes célèbres, on n'a pu plus invoquer le 5e amendement qui dit qu'on peut refuser de témoigner si notre témoignage est incriminant, si ça nuit à notre cause. Le président ne pouvait plus, ou sa famille, s'il accordait les pardons, invoquer le 5e amendement dans une autre cause reliée au même sujet ou aux mêmes questions. Donc, on a fait peser le pour et le contre.
OK, mais s'il donne un pardon dans une cause, s'il peut, je comprends mal, il ne peut plus invoquer le 5e amendement?
Non, dans des causes qui sont reliées au même sujet, parce qu'ayant bénéficié de la grâce, il peut plus être incriminé. Il a déjà obtenu un pardon. Donc, c'est là où il serait obligé de témoigner. Ou encore de se faire imposer je cherche le thème, outrage à magistrat. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui risquait de se passer avec Donald Trump.
Ce qui veut dire, être sûr, je comprends bien, c'est parce qu'on sent qu'il s'est protégé en donnant des pardons à des gens qui pourraient témoigner puis parler de lui peu. Mais on s'est protégé en disant, si ce pardon-là est donné, la personne ne peut plus invoquer le 5e amendement, donc on peut l'amener à témoigner dans une autre cause. Contre Donald Trump, là.
C'est là où ça devient encore intéressant. Puis c'est là où M. Trump a dit, je ne sais pas si tu as entendu le discours avant qu'il ne monte dans l'avion présidentiel pour la dernière fois, là, en route pour Mar-a-Lago. Mm-hmm. Mais dans son discours d'adieu, il a dit aux partisans qui étaient devant lui, nous serons de retour, là, je traduis plus ou moins correctement en français, mais il a dit, nous serons de retour sous une forme ou sous une autre, ou d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai tout de suite pensé avec un rictus, le sourire en coin, il va être de retour parce qu'on va en parler dans les tribunaux. Donc, on risque de voir ces décisions-là ou des retombées des amis de M. Trump ou des collaborateurs être appelés à témoigner. Il y a de nombreuses causes, on le sait. Puis Donald Trump, on en a entendu parler aussi, là, s'est fait couper les vivres par la seule banque avec laquelle ces compagnies pouvaient encore faire affaire, là, ceux qui acceptaient de lui accorder des fonds. Donc, il aura besoin assurément de généreuses compensations financières pour assurer sa dépense. Donc, sa défense. Mm-hmm. Donc, c'est ce dossier-là, là, autour des pardons présidentiels, mais des causes qui pesaient déjà sur Donald Trump, desquelles il a été exempté en raison de l'immunité qu'on lui accorde ou qu'on lui confère parce qu'il est président. M. Trump, on va en entendre parler encore cette année.
Mais si on parle de causes criminelles ou civiles ou...
On a les deux, on va jouer dans les deux territoires au plan légal. Il y a au moins 5 ou 6 causes majeures.
C'est comme, par exemple, l'affaire avec les Russes ou qui peut revenir
sur... Non, c'est par exemple une pour laquelle son ancien avocat personnel a déjà plaidé coupable.
Okay, ouais.
Trouvé derrière les barreaux, c'est pour avoir enfreint la loi électorale.
Okay.
Nos auditeurs se souviennent peut-être, par exemple, de Stormy Daniels, puis qu'on avait acheté son silence pendant la campagne électorale, et on l'avait fait avec l'argent de la campagne électorale, mm-hmm. qui est tout à fait interdit par la loi. Que M. Trump se soit entendu au plan personnel avec Stormy Daniels, c'est une autre histoire. Là où il se retrouve devant les tribunaux, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'argent d'une campagne à ces fins-là.
C'est toutes des choses qui sont sorties durant sa campagne, publiquement, qui vont revenir par en arrière, si on peut dire, le hanter pour des procédures qui peuvent être déposées contre lui.
Ah, écoute, ça va être particulièrement intéressant. Puis moi, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point on est prêt à être conciliant avec lui.
Ouais.
C'est-à-dire à quel point la preuve, par exemple, de la poursuite ou du procureur est forte. Donc, on va voir. Il reste sûrement des parts d'ombre. Mais il y a plein de choses dont on n'a pas reparlé pendant les 4 années, mais qu'on sait depuis le début. Par exemple, qu'on avait effectué des perquisitions au bureau de son avocat, qu'on avait saisi des disques durs, des copies de documents.
Mm-hmm. Donc, on se demandait ce qui allait ressortir de ça, là. Mais,
voilà, finalement, tu vois, ouais. on n'en a pas eu d'écho parce que, bien entendu, il est président, mais il y a, sous le couvert d'anonymat, entre autres, il y a déjà une cause là, impliquant Michael Cohen, son ancien avocat, dans lequel on parle de l'individu A. On ne l'a jamais nommé, mais tout le monde sait que l'individu A, selon la description des documents de cour, ça ne pouvait être que Donald okay. Trump. Donc, c'est là où je disais, on va être dans un dossier assez intéressant, avec beaucoup, beaucoup de retombées, et ça va au-delà de la partisanerie politique. Là. Il y a des questions légales,
ouais.
et il y a des questions aussi, finalement, qui vont être attachées à la politique, qui sont théoriquement très importantes.
Ben oui, puis ça va être intéressant à suivre, mais c'est quand même Donald le canard, là, ça, souvent les choses, ils glissent comme sur un dos d'un canard, et on il nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais savoir si mon affirmation est quand même un peu de sens. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un impeachment. Là, on n'aura pas le temps d'en parler, on en reparlera. Et j'ai l'impression que si ça passe pas, qu'on va revoir Donald Trump à la présidence, parce que si Biden ne livre pas la marchandise économiquement parlant, là, parce qu'il est très pro-pandémie, puis on sait, plus t'es pro-pandémie, malheureusement, l'économie en mange plus un coup. Ouais. J'ai l'impression que si Donald Trump réussit à revenir et que Biden n'a pas fait la job, comme on dit, pour ce qui est de l'économie, il y a beaucoup de gens qui vont choisir. Ils vont vouloir un Donald Trump tout croche, qui fait plein de gaffes, plein de niaiseries, mais qui met en priorité l'économie et que ses chances seraient très fortes de revenir s'il n'est pas destitué, là.
Écoute, moi, je vais être juste un peu plus prudent et faire preuve d'un petit peu plus de... Mais écoute, t'as peut-être raison, on n'a pas de boule de cristal.
Ouais.
Moi, je pense qu'on peut pas exclure un retour. Je pense que les chances sont minces en raison, bien sûr, de tout ce qui lui pèse sur la tête présentement, avec la destitution et avec les recours devant les tribunaux, mais aussi parce que le Parti républicain est en sérieuse remise en question actuellement. Et on est à évaluer les coûts, finalement, les pertes, si on fait le ménage et qu'on se débarrasse des pro-Trump pour changer un peu la plateforme puis aller chercher plus le vote.
Mais c'est à moitié des États-Unis quasiment? Ben pas à moitié,
non,
mais c'est la moitié des électeurs.
Au sein du Parti républicain, c'est peut-être un 15 à 20 des républicains qui étaient très pro-Trump. Il y a des gens qui sont républicains et qui ont fait...
C'est ça, qui votent républicain, mais il y a un pourcentage qui vote Trump. OK, je comprends.
Voilà, c'est donc c'est ça qui va être intéressant à faire. Tu vois, ça se joue un peu partout, hein. Ça se joue au Congrès avec la destitution, devant les tribunaux, beaucoup à New York, mais ça se joue aussi sur le terrain politique avec la réflexion, puis honnêtement, la guerre de tranchées entre les camps chez les
Républicains. Ben oui, puis je pense que pour les Républicains, ça serait presque un soulagement qu'ils soient destitués, puisque ça éviterait tout ce débat-là,
Si nos auditeurs observent ça, puis je veux pas te voler du temps pour le reste de l'émission puis tes autres invités, mais si nos auditeurs veulent suivre quelqu'un qui va être un bon indicateur là-dedans, c'est Mitch McConnell.
Okay.
Monsieur McConnell, c'est la personne à surveiller. Il est en train de négocier, lui, son vote pour la destitution de Donald Trump en échange de concessions de démocrates. Donc, il y a un jeu de stratégie politique. Parfois qu'on peut trouver un peu rebutant ou décourageant, mais qui est toujours au plan théorique fascinant.
Ben oui. McConnell, on va l'appeler l'indice à suivre. On va suivre l'indice. Merci, Luc Laliberté. On se reparlera certainement de ce dossier-là. Bonne journée. Bye-bye.
Bonne journée à toi aussi.